Masque tombe sur RCN.
Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Théo qui vient nous parler de son groupe Kaysaria.
RCN, Les Masques tombent, Elisa Gautron.
Bonjour Théo. Bonjour Théo.
Allô. Bonjour, bonjour. M'entendez ?
Oui, je vous entends.
Très bien, bonjour.
Est-ce que vous allez bien ?
Ça va, vous-même ?
Ça va aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ?
Carrément, Théo, chanteur et guitariste du groupe de club rock Kaysaria.
Alors, c'est quoi votre parcours de vie un petit peu ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Parcours de vie, enfance du côté de Belfort jusqu'au bac, et ensuite déménagement à Strasbourg pour les études supérieures. On a tous fini nos études et avec Kaysaria, on est des potes d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 10 ans. Mmh. On a grandi ensemble jusqu'au bac, ensuite on est parti ensemble à Strasbourg et pour faire nos études. Et parallèlement à ça, on a toujours fait de la musique et en 2018, on a décidé de créer le projet Kaysaria qui mixait nos envies de faire du rock et de la musique électronique et d'en faire un truc vraiment à nous.
Mmh. Alors comment est-ce que vous avez commencé la musique ?
Moi, j'ai commencé, à l'époque, j'ai découvert YouTube. Et YouTube m'a permis de regarder pas mal de concerts et de découvrir l'instrument qui est la guitare. Notamment, j'étais un grand fan de Metallica, donc j'avais acheté tout ce que je pouvais pour essayer de jouer comme Kirk Hammett. Mmh. Et puis, rapidement, j'ai vite découvert des groupes des années 2000 comme les Strokes et compagnie. Là, j'ai pris des cours dans une école de musique actuelle. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai tout de suite eu envie de monter mon groupe. Mmh. Et donc, je suis allé chercher mes potes de Kaysaria. À l'époque, c'était un groupe de collège, hein. Donc pas vraiment sérieux, mais j'ai mis Thomas qui était mon voisin. Je lui ai dit, je trouvais qu'il avait des gros doigts, donc je lui ai dit, écoute, tu vas faire la basse. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est la basse? Et là, je lui ai montré une vidéo de Fall Out Boy Dance où la basse commence. Et la semaine d'après, il avait acheté sa basse. Mmh. Et ensuite, Louis venait nous voir en concert. Je lui ai vendu ma première guitare. Et quand il a eu un peu de niveau, il est rentré dans le groupe. Voilà.
Mmh. Alors. Donc vous avez commencé la musique assez tôt ?
Vers 14 ans, mm-hmm. 14-15 ans.
Et vous jouez d'un instrument en particulier ?
Je joue de la guitare, moi. J'ai commencé par la guitare, mm-hmm. et puis, en fait, personne ne voulait chanter, donc je me suis mis à chanter. Moi, je voulais plutôt faire de la guitare au départ, et puis en final, maintenant, je fais du chanteur, quoi.
Alors, pourquoi la guitare, du coup ?
La guitare, pourquoi ? Bah, je vous dis, j'étais fan, je me suis mis à écouter beaucoup de rock. Et vraiment, l'écoute, en l'occurrence, d'un groupe comme les Strokes, m'a vraiment retourné parce que je trouvais que c'était une nouvelle appréciation de la guitare qui pouvait être mélodieuse et en même temps abrasive et en même temps efficace tout en étant des vraies parties de guitaristes. Et je trouvais ça super. J'adorais aussi l'idée de pouvoir comment... En fait, il y avait un côté très intuitif sur la guitare où on pouvait rapidement composer en ayant très peu de niveau. Mmh. Voilà, et ça m'a plu parce que j'ai tout de suite voulu composer. Et voilà.
Comme vous disiez tout à l'heure, vous vous êtes formé un peu à la musique en parallèle de vos études, c'est bien ça ?
Oui, absolument.
Comment ça s'est passé ?
En fait, on a toujours eu des projets musicaux, avec toujours les mêmes mecs, hein, avec mes deux meilleurs potes. Mmh. On faisait des trucs, mais à côté, c'était un contrat qu'on avait avec nos parents. C'était de dire pas de soucis, mais faites quand même ayez un diplôme, allez jusqu'au bout, et quand vous avez le diplôme, faites ce que vous voulez. Mmh. Donc en fait, on a toujours fait des concerts les week-ends, on se débrouillait pour vraiment faire la musique à côté, et entre-temps, il fallait qu'on ait nos diplômes. Donc en fait, ça s'est fait, on répétait le soir, c'était assez fatigant, c'est un double rythme, mais franchement, on ne regrette pas, et on l'a fait jusqu'au bout, on a tenu la promesse auprès de nos parents, et puis maintenant qu'on a nos diplômes, là, on s'est jeté à cœur perdu dans la musique, mais voilà.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement une fois que vous avez obtenu votre diplôme, vous êtes consacré entièrement à la musique ?
Une fois qu'on s'est... En fait, il y a eu plusieurs parcours. C'est que moi, j'ai voulu, pour bien comprendre la musique, j'ai voulu aller bosser dans le monde musical. Donc j'ai bossé dans des majors comme Universal, Wagram et des labels plus indés, où je faisais de l'attaché de presse, du marketing, de la direction artistique. Je faisais un peu tout ça, je voulais comprendre un peu les rouages. J'ai bossé pendant un an et demi, deux ans. Mmh. Et voilà. Et ensuite, une fois que j'ai travaillé, en parallèle, je travaillais avec le groupe. Et on a monté notre société d'édition, de publishing. On gère les droits d'auteur pour nous au départ, et maintenant on le fait pour d'autres artistes, pour d'autres labels. Mmh. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était pour les artistes indépendants un manque à gagner énorme, alors que les groupes et les formations, les artistes font énormément de concerts et vont pas chercher de l'argent qui leur est dû. Donc nous, on s'est donné cette mission-là de se dire, à un moment donné, nous, on s'est rendu compte de ça et que c'est tellement dur de développer un projet, autant aller chercher tout ce qui nous appartient, quoi. Et donc on a monté ça, et avec le groupe aujourd'hui on fait plus que ça, puisque ça a pris un petit peu d'ampleur, où on a beaucoup de dates, beaucoup de choses à faire, donc jongler avec un autre métier, c'est impossible.
Alors qu'est-ce que ça vous apporte justement comme expérience?
D'avoir bossé ailleurs,
De travailler avec le groupe, et en plus d'aider d'autres artistes par rapport à leurs droits.
Ben disons que nous, c'est... Déjà, c'est des rencontres. C'est cool de pouvoir rencontrer des formations, des artistes. En fait, on se rend compte qu'on a quand même tous et toutes les mêmes problématiques, vous voyez. Donc ça, c'est assez chouette de mutualiser, de créer des synergies. Mmh. Et après, au niveau des gestions de droits, c'est vraiment d'être dans une approche de structuration des projets des artistes. Nous, aujourd'hui, on fait tout en autoproduction. C'est-à-dire qu'on est accompagné par des attachés de presse, des labels, un tourneur, etc. Mais on reste maître de nos masters. Donc on paye toute la prod. Et donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de, via la gestion de droits d'auteur, c'est donner les capacités aux artistes d'être maîtres de leurs droits, de leur argent, et qu'après, eux peuvent l'investir comme ils le souhaitent, quoi. C'est ce qu'on essaye le plus de véhiculer dans les artistes qu'on accompagne, et d'être aussi un partenaire, si vous voulez, de plus long terme, quoi. Parce que les éditeurs, c'est souvent les premières structures sur un projet. Mmh. C'est celle qui arrive en premier. Et après, nous, l'idée, on est vraiment dans une co-construction de carrière, quoi. C'est-à-dire que là, pour différents projets, nous, on s'est effacés parce que il y avait des plus gros acteurs qui étaient prêts à arriver sur le projet. Et nous, c'est là où on veut emmener les artistes avec qui on travaille, quoi. C'est-à-dire de grandir et de s'aider ensemble pour, voilà. Et il y en a qui restent depuis longtemps, voilà. Mais nous, c'est notre mission, en fait. C'est de se dire qu'à un moment donné, il faut aller tout chercher, quoi.
Mmh. Alors avant de parler du groupe Kaisaria donc et de sa création, on va écouter We Never Change de votre album All We Have Is Now, et on revient juste après.
Place. We're all tired, but we won't meet.
Les masques tombent sur RCN.
On est toujours avec Théo pour parler du groupe Kaysaria. Alors dites-moi Théo, comment est-ce qu'il s'est formé ce groupe ?
Il s'est formé en 2018 après à Strasbourg avec des amis d'enfance que sont Thomas, Louis et moi-même Théo. Et il s'est formé voilà, à Strasbourg en 2018.
Alors comment est-ce que vous avez eu l'idée de le créer ?
Bah en fait, nous on se connaît depuis qu'on est marmots, on a toujours eu des projets ensemble. Et celui-ci, il est vraiment né de cette de cette volonté de créer ce style que nous on nomme le club rock, qui est vraiment un mélange entre le rock et l'électro, ce qu'on essaie de faire en tout cas, c'est-à-dire des guitares abrasives, des refrains et des chants fédérateurs du rock, des textes et des thèmes dans la culture rock, mais une façon de produire, une façon de penser le live, une façon de travailler des instrumentales, carrément de la musique électronique. Et nous, c'est ce qu'on aimait en écoutant des groupes comme LCD Sound System, les Raptures, du Soul Wax, etc. On a vraiment pris une claque et on s'est dit qu'on avait envie de faire ça en un peu plus rock pour Kaysaria.
Alors, pourquoi ce nom, justement, Kaysaria ? D'où est-ce que ça vient ?
C'est du latin, c'est-à-dire la femme de César en latin. Et en fait, on trouvait ça joli, on n'avait pas envie d'un nom anglais comme la plupart des groupes. Donc on a pris ça.
D'accord. Alors comment ça s'est passé, vos premières scènes, tous ensemble ?
Comment ça s'est passé, nos premières scènes ? Mal. ça dépendait. Hein. On a toujours fait beaucoup de scènes, donc des fois ça se passait bien, des fois pas très bien. On a pas mal travaillé avec beaucoup de coachs scéniques et comme Comagar, qui est bassiste de Cinaris, ou Franco, voilà, qui sont des gens avec qui on a pas mal travaillé pour essayer de travailler au mieux le live. Donc au départ c'était un peu bancal et puis j'espère qu'on a un peu évolué dans le bon sens.
Alors vous avez sorti un premier EP qui s'appelle Connection Loss. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Bah ouais, effectivement, c'est un EP qui a été enregistré à Londres par notre ami producteur Brett Shaw, qui est en fait le producteur aussi du nouvel album là, qui est sorti le 17 mai dernier. Et on voulait faire une expérience, aller à l'étranger pour enregistrer notre musique. Elle est complètement dans l'héritage anglo-saxon, en l'occurrence anglais du rock. Et voilà, et Brett, on adorait ses productions, notamment pour les Falls ou pour Florence Puce The Machine. On lui envoyait un message en disant: coucou, on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu serais intéressé à écouter nos démos? Et il nous a répondu qu'il l'avait écouté, c'est vrai, carrément chaud pour travailler. Et donc, on travaille ensemble. Et donc, on est parti 5 jours enregistrer ces titres-là. C'était une expérience assez cool. Et on a réitéré la chose pour l'album. On est parti un mois en mars 2023.
Après l'EP, du coup, vous avez sorti un premier album.
Ouais, c'est ça, on a sorti un premier album et on a sorti le deuxième. Et le deuxième, on est reparti avec Brett.
Alors, ces deux albums, de quoi est-ce qu'ils parlent ?
Oulu Avizna, il parle du temps, de l'importance du temps, l'importance du moment présent. Oulu Avizna, c'est vraiment ça. C'était à post-confinement, c'est une période hyper compliquée, alors pour tout le monde, mais à nous aussi. Et donc, on a eu envie un peu de figer, à un moment donné, de marquer l'album dans son contexte contemporain. Donc, d'où le nom Oulu Avizna, où on avait quand même ce besoin d'urgence et d'urgence de vivre. Et le nouvel album, il s'appelle Tonight Will Only Make Me Love You More. Ça parle d'amour, ça parle d'à peu près tout, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un thème qui revenait, c'était l'amour. Et en fait, nous, cet album, le nouvel album, il est vraiment dans un concept album, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris la vibe de Manchester des années 80-90, tout son héritage avec les thèmes qui étaient, parce qu'on trouvait qu'il y avait une similarité entre notre époque et celle du Manchester, et on a voulu l'ancrer là-dedans et en faire un album concept de la DA graphique jusqu'au titre en passant par la scène. Maintenant on a toute une scénographie liée à ça, et voilà.
Alors pour revenir sur votre premier album, All We Have Is Now, vous avez collaboré aussi avec d'autres artistes dessus ?
Ouais, on a fait une version, ce qu'on appelle une after party, une version deluxe. On a fait des feats, on a fait des remixes, on a fait des feats avec un projet sur Strasbourg qui s'appelle L'Aventure, un projet sur Paris qui s'appelle Storm Orchestra. avec une chanteuse d'or des Blind Sons dans l'autre côté d'Angers, qui a fait notre première partie à la Boule Noire, voilà. On a fait des remixes avec un mec qui s'appelle Vapa, qui est un DJ français de la scène nantaise, il me semble. Enfin, voilà. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire une relecture de nos titres avec des artistes qu'on aimait.
Mmh. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur?
Ouais, carrément. Carrément, des artistes qu'on kiffe, on voulait vraiment essayer de faire vivre la chose. Et puis, c'était aussi un espace de liberté assez cool, puisqu'une fois que tu as lancé l'album et que tu arrives avec des inédits et des choses, tu peux te faire plaisir. Donc, par exemple, il y a un titre qui dure 8 minutes, qui s'appelle Atom, qu'on a pu enregistrer, qui n'est pas du tout format album, mais pour l'after party, il s'y prêtait bien. Nous, c'est un titre qu'on joue en live depuis méga longtemps, mais qui n'a jamais trouvé sa place sur le format disque. Et là, pour le coup, on a pu lui donner une place parce qu'il rentrait dans cette logique de after party, on continue et on y va.
Qu'est-ce que ça vous a fait de sortir votre premier album?
Ben, c'est toujours assez un moment fort, quoi. Parce que bon, tu potasses, nous c'était vraiment notre tout premier. Donc il y a eu beaucoup, il y a eu 2 ans de travail. Donc une fois qu'il est sorti, après, derrière, tu penses déjà à la suite, quoi. Donc non, c'était une belle épreuve. Parce que une épreuve dans le sens où on est vraiment allé loin, parce que c'était pendant le Covid, on composait pendant le Covid, on ne respectait pas du tout les mesures, donc on se retrouvait pour aller répéter, pour aller composer. Donc c'était assez cool. Et pareil, on l'a fait mixer par un producteur qu'on adore qui s'appelle Mark Needham, qui est un Américain qui a bossé pour Imagine Dragons, les Killers. Parce qu'on on veut toujours partir pour vraiment se couper du quotidien. Et là, on pouvait pas. Donc on s'est dit, bon bah si nous on part pas, c'est les pistes qui vont partir. Et donc on a contacté ce mixeur en lui disant, écoute, voilà, on peut pas venir nous, mais est-ce que tu serais chaud à mixer? On lui a envoyé les démos. Et pareil, il nous a répondu en OK. Donc on lui a envoyé les titres et il nous a renvoyé mixer et masteriser.
Quand vous avez sorti le premier album, vous pensiez déjà au deuxième?
Pardon?
Quand vous avez sorti votre premier album, Louis Avizna, vous pensiez déjà au deuxième?
Non, on savait pas trop. Parce qu'on a fait 40 dates, on a fait presque entre 30 et 40 dates après l'album, donc c'est assez intense, donc on savait pas du tout ce qu'on allait faire. Et puis ça dépendait aussi des résultats de l'album, il y avait plein de choses qu'on attendait cet album-là. Et après, un an plus tard, on a vu qu'on avait envie de continuer, qu'on pouvait continuer, que les gens qui étaient autour de nous voulaient qu'on continue. Bon, on s'est dit on continue, et donc on s'est dit on fait l'autre.
Avant de parler un peu plus en détail justement de ce nouvel album que vous avez sorti le 17 mai, on va écouter Pointless, toujours de votre album All We Have Is Now, et puis on revient juste après.
Ça marche. Walking alone in the street is blind.
Les masques tombent sur RCN.
On est toujours avec Théo pour parler du groupe Kaysaria. Alors Théo, vous venez de sortir votre deuxième album, donc il s'appelle Tonight Will Only Make Me Love You More.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cet album ?
Ouais, carrément. Ben, c'est un album qui est sorti le 17 mai dernier, qu'on a enregistré un mois à Londres avec Brett Shaw, notre producteur de cœur. Et c'est un album qui parle de nos amours, de nos obstacles, de nos envies, de nos rêves, de nos colères aussi. Mmh. C'est vraiment une vraie partie de nous qu'on délivre, dans le sens où ça a été composé dans des contextes personnels assez compliqués, sur plein de plans. Et en fait, j'ai l'impression que cet album-là, voilà, ressent ça. Et c'est surtout sur sa forme, un album, ce qu'on appelle un album concept. En fait, on s'est intéressé pendant la composition et l'enregistrement à toute la scène des années 80-90 du nord de l'Angleterre, qui s'appelle le Manchester, avec comme point d'ancrage la Sonda, qui était une boîte de nuit iconique, qui a vu naître voilà, la Sid House et tout ça. Et nous, on a été fans de cette scène-là, parce que c'est des gars, via le label Factory Records et Tony Wilson, qui ont, dans un club, mixé un club de musique électronique et une salle de rock, avec des groupes comme les Happy Mondays, les Charlatans et les New Order en tête de proue. Mmh. Et en fait, on s'est dit, mais c'est incroyable, il y a 30 ans, 40 ans, les gars faisaient déjà ce que nous, on adorerait faire. Et on s'est grave intéressé et on a voulu, du coup, dans cet album-là, être dans la lignée et voilà, avoir une constellation de références avec des petits clins d'œil à droite à gauche, des rythmes de batterie assez laid-back comme ils pouvaient faire, du clavier type à la Joy Division, enfin voilà, plein de références comme ça. Et sur la composition et jusqu'à son enveloppe, puisque toute la DA, notamment la pochette, elle reprend les stries noires et jaunes des deux poteaux iconiques de la Hacienda. Et tout est comme ça, on fait toute la DA comme ça, et sur scène, on a repris ces poteaux voilà, qu'on met sur scène. Quoi.
Est-ce qu'il y a une musique dans cet album qui vous tient particulièrement à cœur ?
Elles nous tiennent toutes beaucoup à cœur. Je dirais qu'il y en a une particulièrement, à moi, à titre personnel, c'est It's Not the End, qui est la troisième, puisqu'elle parle de la perte de ma mère, que j'ai perdue en 2023. Voilà, donc c'est une chanson qui est forte pour moi.
Mmh. Alors, est-ce que vous avez commencé à faire des scènes, justement, par rapport à cet album ?
Des scènes ? Ouais, on a commencé, bien sûr. Hein. On est en tournée depuis début avril. On a joué au Havre, à Rennes, à Château-Giron, à Strasbourg, à Paris, voilà. Et là, dans le Jura, enfin, on nage un peu partout. Mm-hmm. Et là, on continue, on sera aux Eurocaines de Belfort le 5 juillet. Et puis, on a une tournée jusqu'à mi-septembre, avec des dates en Angleterre, trois dates en Angleterre.
Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site, pour suivre un peu tout ça ?
Et carrément, c'est Kaysaria, Kaysaria.fr. Et après, on est sur Instagram, Facebook, le Minitel, partout. Mmh.
Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ?
Continuez d'écouter de la musique et surtout continuez à l'écouter. Quelle est l'arrière ?
Merci beaucoup Théo d'être venu dans l'émission. Merci. Et puis, on va se quitter en écoutant Love You More Than Me, justement de votre nouvel album. Et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques Tombent.
Super, merci.
Tonight will only make me love you more, because nobody ever loved you more than me. I feel like spending time all alone. I've been with my friends and mates for too long. I sleep and wine. You fade out the real world. You will need time to recover from me. Unstable guy, I'm like, love you more than me. Give me some time, I'll learn how to react.
edges and